RMC, 20h-22h, Génération After.
Thibaut Giangrande,
Julien Lens, Paulo Breitner, Fred Hermel, Yoann Crochet, comme tous les lundis soirs, 20h-22h, Génération After en direct avec vous au 32-16. Dans une petite demi-heure, vous nous appelez, les drôles de dames sont face à vous. D'ici là, les équipes sans victoire en première ligue, il y en a 6 après 5 journées. Julien nous expliquera ce qui se passe. On parlera également du Real Madrid, les minutes de Yoann, de Paulo, mais d'abord l'Italie, justement, et ce derby milanais, Yoann, remporté par l'AC Milan. Oui, surprise, on est d'accord.
Oui, bah quand tu fais les forces en présence avant le derby, ouais. Et que tu vois la semaine qu'a passé l'AC Milan, les grandes difficultés, les résultats depuis le début de la saison, le match raté contre Liverpool ou avec le stade, les siffles totalement à la fin. Alors ceux qui étaient restés, parce qu'il y en a même qui sont partis largement avant la fin du match. Et de l'autre côté, l'Inter qui fait une prestation solide à City, qui a plutôt bien géré son début de saison, même s'il est les deux matchs nuls à l'extérieur, il y a quand même à boire et à manger. On se disait, voilà, ça peut être la 7e victoire consécutive dans un derby, ce qui n'était jamais arrivé. Et la série s'arrête à 6 parce que il y a le facteur Milan, c'est-à-dire que Paulo Fonseca, qui était quand même un peu sous pression, a fait des choix. Répète à chaque fois les choix
forts.
Ouais,
non, mais je crois qu'ils se sont dit les choses vraiment.
Ouais, exactement. Le groupe vit bien. Mais non, mais il a fait clairement des choix, c'est-à-dire mettre Morata et Abraham ensemble, c'est-à-dire double attaquant. Alors, même si Morata était derrière Abraham et que Fonseca a expliqué, on le voyait de toute façon au cours du match, que ce que des gens pensaient être un 4-4-2, c'était plus un 4-2-3 avec Morata derrière Abraham. Mais c'était quand même un choix beaucoup plus offensif que de mettre un Reinders en 10 ou un Loftus-Cheek qui sont des milieux de terrain en numéro 10. Le fait de mettre Gabia en défense centrale, c'était aussi un choix de Fonseca, alors que Pavlovic avait plutôt donné satisfaction depuis le début du championnat. Donc, il y est allé avec courage, on va dire ça comme ça. Et Milan a encore fait un gros début de match, comme il l'avait fait contre Liverpool, sauf que Liverpool, ça avait duré 5 minutes à peine. Et contre l'Inter, ça a duré un quart d'heure. Mais encore une fois, le sentiment qu'ils essayent de gérer... Et ils ne sont pas encore en capacité de pouvoir gérer. Parce qu'après l'ouverture du score, bon, il y a eu encore 2-3 éclairs, mais derrière, ils ont laissé le ballon à l'Inter, ils ont laissé l'Inter revenir dans le match.
Di Marco Pulisic ouvre le score à la 10e, Di Marco égalise à la 27e.
Exactement, et puis jusqu'à la mi-temps, c'est quand même plutôt une domination de l'Inter où Thuram a une grosse occasion que Maignan détourne magnifiquement sur un tir croisé. Il y a quelques occasions pour l'Inter et on se dit... le match est un peu en train de basculer parce que le Milan a fait un bon début de match, mais derrière ils se sont arrêtés de jouer, ils ne pressent plus comme ils devraient presser, ils ressortent un peu moins les ballons, ils laissent beaucoup plus le ballon et les initiatives à l'Inter, donc on s'est dit attention. Et puis finalement l'Inter, qui était très décevant malgré tout sur ce match-là, Simone Inzaghi, les joueurs disaient on n'a pas été l'Inter de d'habitude, on n'a pas été une équipe. Simone Inzaghi dit on n'a pas été une équipe, ce qui est quand même très très rare chez lui, parce que depuis qu'il arrive à l'Inter, c'est toujours cohérent. Il y a des fois ça peut marcher, pas marcher, mais c'est globalement toujours cohérent.
Et surtout qu'il avait tout fait pour être en équipe.
Gérer les temps de jeu en
c'est
plus.
Ça. Contre City, on en avait parlé.
Il avait des joueurs qui avaient été au repos, d'autres qui étaient sortis en cours de match assez tôt. Donc l'excuse du physique, d'ailleurs il n'a pas du tout pris cette excuse-là, Simone Inzaghi. Il a juste dit Milan était meilleur, on n'a pas été une équipe. C'est en quelque sorte, vaut mieux que ça nous arrive maintenant que plus tard dans la saison, mais... effectivement, l'Inter a été très décevant. Le milieu de terrain n'a pas été du tout influent, ce qui est quand même problématique parce que c'est le secteur clé de l'Inter. Hormis Di Marco et Bastoni, qui ont essayé d'animer un peu le côté gauche et d'amener du dynamisme, de l'allant, des centres, un peu de percussion, c'était trop compliqué. Et Milan a bien géré son affaire, a été toujours sur... toujours vivant dans ce match, dans le sens où même s'ils ont été un peu passifs par moment, on avait le sentiment qu'en transition ils pouvaient largement régler l'affaire, et ils ont eu beaucoup beaucoup d'opportunités en deuxième mi-temps en transition, parce que Milan est une équipe aussi qui a des joueurs qui vont très vite vers l'avant, et ça leur donnera peut-être des idées où parfois quand on est un peu en difficulté dans le jeu traditionnel, on peut laisser un peu le ballon à l'adversaire en faisant attention de ne pas trop subir non plus et de piquer en contre, et pas simplement avec l'opportunité Léao. On sait que Léao va très vite, mais c'est pas le seul à aller vite, à bien se projeter. Les milieux de terrain, Reinders fait une deuxième mi-temps très impactante.
Un peu tôt pour dire que le Fonseca ball est lancé, parce que c'est vrai qu'il y a une semaine on parlait déjà de son départ éventuel. Bon, il fallait du résultat là, de toute façon.
La caisse de résonance d'un grand club fait que, au bout de deux matchs, ça peut être une crise. Donc évidemment que Milan a été dans cette position-là où les supporters en plus n'étaient pas contents. Donc ça fait tout ça une espèce de grosse caisse de résonance où on a tout de suite dit, parce que mine de rien avant le match, Milan ils sont à 3 points de l'Inter. L'Inter c'est ciel serein, pas un mot dans la presse sur une éventuelle crise, il n'y a que 3 points d'écart entre les deux.
Oui.
Donc il n'y avait pas un écart trop important. Et pourtant on a l'impression que c'était la fin du monde sur une partie de la ville et de l'autre côté il faisait grand soleil. C'est un peu différent. Évidemment que les supporters ont eu un rôle aussi dans toute cette ébullition négative autour de Milan parce qu'ils ont manifesté clairement leur désapprobation. Quand on parlait de Lina Souloukou, par exemple, qui avait un service de sécurité à Rome, il faut savoir qu'à Milan, on avait mis des choses en place aussi autour des dirigeants avant le match-là. Donc, moi, je pense que c'est un bol d'air frais. Je pense que ça donne beaucoup de conviction à Fonseca vis-à-vis de son groupe et même vis-à-vis de la presse aussi, parce que tout le monde a bien noté que Milan a vraiment dominé l'Inter, pas forcément ballon au pied, mais dans le déroulé du match, ils ont été les meilleurs tout simplement sur ce derby-là. On verra, je ne suis pas persuadé que ça change forcément toute la face à l'instant T de Milan. En tout cas, ça donne quelques jours sereins pour retravailler, mais ça va demander confirmation, c'est ça les grands clubs. C'est que, je disais, en deux matchs, ça peut être la crise. Vous gagnez contre l'Inter et derrière vous faites match nul contre Lecce ou vous perdez à Lecce, ça sera le même bazar derrière. Donc
Lecce dans les pouilles.
Lecce dans les pouilles aussi, et je crois que c'est à domicile d'ailleurs le match. Mais c'est pour dire que Fonseca, il travaille, il met les choses en place, il travaille beaucoup. C'est pas un mec qui est, quand on parlait de cet été d'Antonio Conte, que les supporters voulaient, mec ultra charismatique, qui emporte tout derrière lui, l'adhésion des supporters, etc. Fonseca est un petit peu différent, dans un registre différent, c'est ce que voulait aussi Milan. Mais ça bosse dans un environnement qui n'est pas toujours très simple.
Et après, il y a une constante dans cette Serie A qu'on ne voit pas en France, c'est que les gros galèrent depuis le début de saison. Bon. Là, le Torino, leader avec 11 points, donc c'est 5 journées, hein, devant le Napoli, okay, qui est là avec 10 points. Derrière, c'est l'Udinese, 10 points, la Juve, Empoli.
Mais moi, ce n'est pas tant le classement, même si ça compte, effectivement. C'est de me dire qu'il y a un seul gros club qui a 2 points par match depuis le début de la saison. C'est le Napoli. Tous les autres... Juve, Inter, Milan, Lazio, Roma, Atalanta, même si ils avaient un match de moins avant le début de cette soirée-là, même s'ils le gagnaient, ils ne seraient pas à 2 points par match. Et effectivement, globalement, moi je ne suis pas très satisfait du début de saison d'un peu tout le monde. Je m'attends à beaucoup mieux, même si on pouvait dire que beaucoup de clubs ont changé. La Juve a changé, le Napoli a changé, la Lazio a changé, la Fiorentina a changé, le Milan a changé. Donc effectivement, beaucoup de clubs avaient... commencer une sorte de petite révolution dans le jeu et dans le commandement de l'équipe cette saison, cet été. Mais c'est assez décevant pour le moment. Je trouve que même Daniel me disait en semaine oui, c'est pas si mal les résultats en Ligue des Champions. Moi, aussi bien sur la prestation que sur les résultats, je suis pas très satisfait du début de saison des gros clubs italiens.
Les Espagnols en plus, ça n'a pas été terrible.
Ouais. Ouais, mais après ils prennent les points les gros quand même quoi par rapport à l'Italie ou.
Bah non, le Barça a perdu.
Ah non, oui d'accord, mais je parlais en
Ligue des Champions. Oui, ah oui, non, je parlais en Ligue des Champions. Ah oui, pas résultat. Ligue des Champions, le Real a souffert contre Stuttgart. Gérone a lutté contre le PSG mais a perdu.
Ah, c'est normal, les clubs Monaco, ça sont
Monaco,
les gars. 3 victoires sur 4 à un moment donné.
Monaco, bon départ, les gars. Bah, le Barça après. Alors,
c'est ça la nouvelle Ligue des Champions.
Le seul truc, je peux vous remettre un truc.
Allez, vite.
Je pense que, enfin, ce match, je pense qu'on.
Lequel
la victoire de Monaco sur le Barça.
Quoi?
Le Barça a joué, en comptant le temps additionnel, 90 minutes à 10 contre 11 quand même.
Et donc?
Excuse-moi, enfin c'est bravo à Monaco.
Bah oui.
Mais enfin, les dés sont un peu pipés quoi. C'est pas. Après, c'est de la faute de.
Ah voilà, on peut te dire que Monaco a provoqué aussi.
Oui,
l'expulsion
c'est surtout une
connerie. Il y a des clubs qui passent tout un match à 10 contre 11 et qui gagnent, comme Marseille hier. Tu
vois, oui, non, mais je veux dire à ce niveau-là. Mais je trouve que Monaco a très bien joué. Je ne veux pas enlever de mérite à Monaco.
Un petit peu,
mais je veux dire que je ne veux pas casser le Barça pour leur défaite à Monaco. Tu vois, parce qu'à. Tu vois, il y avait 4 minutes à la mi-temps de temps additionnel, 6 minutes à la fin. 90 minutes à 10 contre 11, quoi.
Ouais, mais tu vois, profiter de cette tribune qui t'est offerte dans les drôles de dames pour descendre Monaco, c'est pas
et
beau.
Je descends pas du tout Monaco.
C'est pas beau, Fredo.
Je descends pas du tout. Pas
juste pour terminer sur le derby, on a mis beaucoup l'accent sur Milan parce que c'est le vainqueur et c'est normal. Mais grosse déception du côté de l'Inter. Grosse déception, je m'attendais pas à ça. Et sans doute que l'environnement autour du club a été aussi entendu par les joueurs, parce qu'ils ont été vraiment, je trouve, en dilettante. Et tout ce qu'ils ont entendu cette semaine, Milan, club en crise, regardez comme ils sont fait humilier par Liverpool, ça va pas, les supporters gueulent, les dirigeants ils sont contestés, Paulo Fonseca est contesté, le cooling break de Théo, de Léao, bidule, machin truc. Peut-être ils se sont dit, bah les gars, doigt dans le nez, sont, le derby.
Ouais, un peu comme peut-être le Barça contre Monaco. Dans quelques minutes, tu nous parleras du Real. Justement, Fredo, on va parler également de la Première Ligue, où là, c'est en bas que les équipes n'arrivent pas à gagner avec Julien. Mais d'abord, tout de suite, c'est la minute de Polo.
Comment ça, mon Polo ?
Bah, c'est Herbert Grönemeyer aussi, quand même, la plus grande voix actuelle. Le grand chanteur de la musique allemande. On a eu un débat très intéressant avec Fred d'ailleurs cette semaine ou la semaine dernière sur la musique allemande. Donc la musique s'appelle Chaos. Chaos évidemment en français, c'est pas le plus dur à traduire. Pourquoi est-ce que je parle ça ? C'est qu'on se rend compte une fois de plus que les clubs qui ne vont pas bien sur le long terme, eh ben, sont des clubs par exemple qui passent leur vie à changer d'entraîneur ou à changer trois fois en six ans de directeur sportif. Là, je suis allé faire un petit tour en seconde division, évidemment, et le duo belge Marc Van Bommel et Gerrits ont été licenciés. On les a enlevés de leur poste. En tout cas, je regarde Hoffenheim, où le coach Matarazzo risque de sauter. Ce serait tout simplement, si on y en avait un nouveau, ce serait le septième qui arriverait depuis 2019. On pourrait d'ailleurs, dans la période un peu compliquée du Bayern post 2020, regarder le nombre d'entraîneurs qui sont passés et se rend compte que c'est peut-être l'une des explications qu'on n'a jamais le temps de donner vraiment sa chance à un coach. Tout ça fait qu'en gros, en Allemagne, on se dit, y a ceux qui bossent bien et puis il y a les coachs, il y a les clubs où il y a les dirigeants qui, dès que ça ne va pas, ils font sauter les entraîneurs, voire les directeurs sportifs. Et finalement, on se rend compte que ce n'est pas forcément quelque chose de très positif. Donc, faisons confiance aux coachs à partir du moment où ils ont toujours la confiance du vestiaire, bien entendu. Voilà.
Et quand vous débattez de musique, Fredo et Polo, vous parlez de quoi, du coup ? C'est quoi le débat ?
En fait, on s'était parlé au téléphone, parce qu'on se parle aussi. On a une vie en dehors de l'émission.
On veut savoir les rôles de dames en dehors de l'émission.
On parle de Thibaut Grandjande. On parle de Thibaut Grandjande, on dit des méchancetés.
Voilà, ça a fait un beau jingle. Ouais,
même respect du long
terme. Je vous disais qu'un jour, il fallait en parler. On a 10-30 secondes pour expliquer pourquoi c'est si facile pour Julien de trouver des chansons super toutes les semaines. Parce que la chanson anglaise, c'est un truc de malade. Tu vois ce que je veux dire ?
Et que vous,
pourquoi,
vous galérez plus.
Pourquoi c'est plutôt facile pour moi, puisque j'ai l'Amérique latine, tu vois, il y a tellement de créativité, etc. Aussi, parce que c'est à voir avec la dictature, parce que la dictature franquiste favorisait aussi la musique. Alors que l'histoire de l'Allemagne, et je te laisse, passe la balle à Polo, pourquoi pour Polo, c'est si difficile de trouver des belles chansons allemandes ?
Parce qu'ils sont quasiment tous partis dans les années 30, et notamment aux États-Unis.
Ah oui.
Et finalement, après la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas eu un renouveau. Il a fallu dénazifier notamment les Allemands, qui était un truc à la mode. Donc, on a trouvé ça au cinéma. Il suffit de voir le nombre de réalisateurs, par exemple, juifs allemands en Allemagne. C'est eux qui ont fait l'histoire d'Hollywood, en fait. Et donc, tout ça fait que la culture de la musique a mis du temps à se remettre en place. Et c'est pour ça qu'on trouve Nena qui débarque dans les années 80. Et c'est un truc assez fabuleux. Et quand des choses comme ça arrivent, culturellement, c'est difficile de retrouver d'un seul coup musicalement, alors que la musique classique allemande et on va dire du monde alémanique, parce qu'il faut rajouter l'Autriche et tout ça, est extraordinaire. Et ils n'ont pas eu le tremplin, mais vous avez la même chose au cinéma. Je rappelle juste une chose, avant le nazisme, l'Allemagne produisait plus de films que l'ensemble de l'Europe. Et ça, c'est les fameux studios de Babelsberg. Et aujourd'hui, tu vois, c'est beaucoup plus compliqué.
Merci Polo.
C'est pareil.
Mais je trouve ça passionnant.
Merci Fredo. C'est ça aussi les drôles de dames.
Mais les drôles de dames aussi. Mais c'est aussi pour expliquer une chose, c'est que nos footballs ne sont pas compréhensibles sans le contexte économique, politique, social et historique.
Et merci à vous.
Et ça.
De nous expliquer tout ça.
Et moi, j'aime cette émission pour ça.
Il reste la minute de Johan Crochet justement. Pression, Johan, sur ton choix musical ce soir après tout ce qui vient d'être dit. On va parler également.
Pour une raison très simple aussi.
De l'Angleterre et du Real Madrid.
C'est une culture de musique en Italie, naturellement. Et la culture des régions et tout ça fait que Voilà, il y a une tradition, et puis tous les festivals, etc. Enfin, je veux dire, c'est tellement inclus à la vie quotidienne des Italiens.
Comment sera Mazzotti?
Il y a la langue qui aide aussi.
Elle aussi, ça aussi, c'est vrai.
21h45, 32-16. Au choix musical, si vous voulez.
Bella, ciao,
t'avais vu la reprise avec Gims, ça a été bien celle-là.